Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cinéma. Ça tourne aujourd'hui avec l'équipe d'un film très attendu en salle, Gourou, avec Pierre Niney dans le rôle titre. Le gourou, c'est lui, Matt, Mathieu Vasseur, coach en développement personnel qui électrise, harangue les foules. Son succès est total mais inquiète les autorités qui menacent d'encadrer la pratique du coaching, jugée toxique pour ses adeptes.
Merci les amis.
Ce que tu veux,
c'est ce que tu es.
Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît?
Je suis fière de toi.
Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins.
Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur.
Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
Extrait du film Gourou de Yann Gozlan au cinéma la semaine prochaine. Et pour vous en révéler les coulisses de tournage, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Niney, le réalisateur Yann Gozlan et notre métier de l'ombre du jour, Jean-Baptiste Delafont qui est scénariste. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et soyez les bienvenus. Bravo pour ce film puissant, poignant, électrisant aussi. On va en révéler tout au long de cette émission les coulisses de tournage. Mais d'abord, Pierre Niney, je vous propose de fermer les yeux si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première image qui vous vient en entendant cette musique?
Michael Jordan.
Ouais, j'allais dire exactement la même chose.
Les Chicago Bulls. Et on a effectivement repris cette musique pour les scènes de séminaire de Coach Matt. Donc quand il effectivement essaie de convaincre, persuader, peut-être même manipuler ses adeptes, mais en tout cas les mettre dans un état comme un show, quoi, comme un grand spectacle qu'il fait. Et effectivement, ces séminaires existent en France. Ouais. Et on a choisi cette musique qu'on trouvait très entraînante et très, très vendeuse.
Et que j'avais entendu, en fait, pourquoi cette musique? Je l'avais entendue, moi, dans un des séminaires auxquels j'avais assisté. Le gars, avant de rentrer sur scène, mettez cette musique.
Mais est-ce que pendant le tournage, vous la diffusiez en vrai?
Sur le plateau? Oui, carrément, parce qu'elle me mettait cette adrénaline, cette énergie que je voulais vraiment rendre compte dans le film. Et surtout, c'était, je crois, un bon moyen pour chauffer la salle, parce que ces scènes de séminaire sont capitales dans le film. Pour nous, c'était des scènes très importantes avec Jean-Baptiste qui a écrit le scénario. Et il fallait rendre compte de cet aspect énergique, électrique, cathartique que j'avais pu voir dans les séminaires auxquels j'avais assisté. Et cette musique, je trouve, donnait cette ambiance, et ça nous mettait en condition, et ça mettait en condition les figurants, et je tiens à le dire, qui ont été tous incroyables, hyper impliqués.
Alors oui, on va y revenir, parce qu'il y en avait 400
qui n'ont pas été
rajoutés en post-prod.
Non,
on est vraiment sur
de la
vraie figuration.
Il n'y a pas eu d'utilisation d'intelligence artificielle sur ce film pour ces séminaires.
Ce sont des scènes vraiment qui sont très impressionnantes. Je crois que vous avez ces 4 jours de tournage complet sur ces scènes de séminaires.
C'est plus, parce qu'en fait, comme il y a 3 séminaires à chaque fois, on a quelques jours de tournage, nous. Comme disait Yann, c'était vraiment central dans le film de raconter cette électrisation de la salle, des foules, presque un état second dans lequel ils cherchent à mettre les participants de ces séminaires. Vraiment, moi, je renouais avec mes amours du théâtre aussi. C'est-à-dire de retourner sur les planches, avoir la possibilité d'aller chercher une salle, vraiment, comme on dit, d'essayer de la tenir en haleine. Et c'était vraiment le but, à la fois pour le spectateur du film, de, encore une fois, faire quelque chose de généreux et d'assez incroyable. On reste vraiment interloqué et presque on peut être emporté en fait par ce coach, même si on sait qu'en fait dans les coulisses tout n'est pas si beau et si glorieux, on a presque envie d'y croire.
Et vous aussi, est-ce qu'il y avait une forme de transe aussi, parce que vous êtes dans un don physique de soi dans la prestation, mais aussi physiquement vous êtes méga investi. Est-ce que vous rapprochiez de ça?
Je me suis rendu compte très vite effectivement que ça allait être sport, quoi, que ça allait être physique, et en même temps j'adore l'idée que ça prémâche un peu le travail. Je trouve qu'on sort un peu de son corps, on sort un peu de sa tête quand on attaque un rôle aussi physique que Coach Matt. Donc l'idée, effectivement, enfin j'ai vu tout de suite qu'il fallait que j'aille à la salle de sport, que je fasse du cardio, que je fasse du rameur comme Coach Matt dans le film, et que j'ai à la fois cette vitrine qui peut faire un peu rêver, ce corps qui peut faire un peu rêver ses adeptes, parce que c'est aussi ça qui vend, cette idée de meilleure version de nous-mêmes, de bien-être et donc de perfection physique, mais aussi parce que fallait qu'en cardio je tienne des jours et des jours de séminaire enfermé dans des salles sans fenêtres.
Ouais, c'est ça. C'était un hangar, vous étiez dans
non
quoi
c'était des grandes salles
de séminaire on a tourné chez Disney, on a tourné dans de grandes salles qui sont dédiées en fait à des séminaires où il y avait 400 personnes.
On devient un peu fou parce qu'on sait plus quelle heure il est, on voit pas la lumière du jour, et du coup ça a aidé le film, je pense, parce qu'à l'arrivée avec ces 400 figurants que je salue saluer tous un par un et dont je salue la prestation, on s'est mis dans des états pas possibles, dans des états un peu dingues. Et tout ça, c'est dans les scènes, c'est dans le film. Ouais.
On va revenir à la genèse du film. L'idée de départ, c'est vous qui l'avez, Pierre Ninet, le sujet sur les coachs en développement personnel. Vous la soumettez donc à Yann Gozlan, réalisateur avec qui vous avez déjà collaboré sur L'Homme idéal et Boîte noire. Et Yann, ensuite, vous contactez un scénariste, en l'occurrence donc oui. Jean-Baptiste Delafont, avec
tout
qui vous co-écrivez le film, à qui on doit l'écriture de la série Baron Noir, entre autres.
Et d'Argent et de Sang.
Et d'Argent et de
donc
Sang.
Donc deux séries quand même brillantes.
Assez costaud, oui, voilà. Déjà, Jean-Baptiste, dans les grandes lignes, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le métier de scénariste, qui l'assimile peut-être à celui de réalisateur d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un scénariste pour le cinéma?
Alors, c'est quelqu'un, au final, qui doit fournir un document qui va faire entre 100 et 150 pages, où il y a toutes les scènes numéroté, avec tous les dialogues du film, qui est la base de travail pour le réalisateur et plein de techniciens, où chacun va aller chercher dans le scénario des éléments qui concernent les décors, des éléments qui concernent la lumière, des éléments qui concernent le maquillage, etc. etc.
Ah oui, c'est vraiment la Bible.
C'est un Bible. Et, ce scénario, il va se transformer pour la fabrication du film en un plan de travail où ça va évidemment rarement être dans l'ordre du scénario, ce qui va être tourné. Donc, c'est sa mission, c'est celle-là, mais c'est surtout que le scénario, ça soit une histoire, que ça soit vibrant, palpitant, que ça intéresse aussi des gens qui vont mettre beaucoup d'argent pour, parce que travailler un scénario, ça coûte un peu d'argent, mais beaucoup moins que de faire un film. Donc, un scénario, c'est aussi un élément pour permettre de financer un film.
Pierre Ninet, pour vous, ça représente quoi le métier de scénariste en tant que comédien?
C'est le nerf de la guerre, les bons scénarios, les bonnes histoires, c'est ce qu'on cherche tout le temps, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur. Là, j'ai coproduit le film, donc voilà, je me rends de plus en plus compte à quel point les bons scripts, des histoires qui sont à la fois un bon sujet, mais qui ensuite est bien raconté, c'est-à-dire qu'il faut de la technique là-dedans, il faut savoir effectivement mener l'histoire. Et c'est en fait la perle rare, c'est ce qu'on recherche tout le temps, des bonnes histoires, des bons scénaristes. Donc les scénaristes, c'est vraiment hyper important qu'il y ait un renouveau, qu'ils soient formés, qu'ils soient curieux, qu'ils proposent des nouvelles formes. Et aussi, je pense qu'ils soient payés à leur juste valeur, récompensés à leur juste valeur, parce qu'il faut que ce soit tentant, il faut qu'il y ait un appel fort sur ce métier pour qu'on ait des nouveaux imaginaires et des jeunes gens aussi qui aient envie d'écrire des films.
Comment est-ce qu'on devient scénariste, Jean-Baptiste Delafont? Est-ce qu'il y a un parcours? Vous, c'est un peu de l'autodidacte.
Moi, j'ai pas fait d'école ou de choses comme ça. J'ai fait de la philo. Après, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de formations. Il y a des très bonnes formations. Moi, je suis directeur du département série à la FEMIS, où je peux dire que c'est une super formation avec des super étudiants. Mais moi, c'était parce que j'écrivais depuis toujours. J'aimais écrire. Et à un moment, j'ai cherché à gagner ma vie avec l'écriture. Et je me suis dit qu'il y avait un métier là. Donc, je m'y suis intéressé. Et j'ai commencé par la télévision, vraiment assez hertzienne, assez classique, de polar, de choses comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai été vers des choses qui m'étaient plus personnelles.
C'est quoi le statut d'un scénariste? Vous êtes intermittent aussi?
Un des problèmes tout à l'heure par rapport, c'est que l'intermittence n'existe pas pour les scénaristes, qui est un statut quand même super pour tout le monde, pour les techniciens. Et c'est vrai qu'il y a... Pourquoi les scénaristes ne sont pas aussi protégés? Et puis, une histoire, ça demande quand même... c'est des longues années de développement, ça prend du temps. Donc, c'est, je trouve, un métier qui n'est pas assez valorisé.
Ici, avec Ségolène Aluni, ça tourne.
Ça tourne avec l'équipe du film Gourou, Pierre Ninet, le réalisateur Yann Gozlan et le scénariste Jean-Baptiste Delafont. C'est l'heure de la séquence souvenirs sensoriels de tournage. Pierre Ninet, en vous replongeant dans vos souvenirs sur ce plateau de tournage, quelle odeur vous revient en tête?
En fait, c'est l'odeur de la transpiration où on est dans cette salle enfermée depuis 4 jours. Il n'y a pas de fenêtre. On a l'impression d'être à Las Vegas. On ne sait plus l'heure qu'il est. C'est ce qui participe de la transe collective. Et il y avait des scènes où je descends dans la foule et d'un coup, on se retrouve. Et évidemment, tout le monde avait chaud et tout le monde se donnait à fond, corps et âme. Et je pense que ça fait vraiment la force de ces scènes de séminaire. Il y a peu de films, finalement. Il y a peu de films au cinéma qui traitent ce truc d'hystérie collective. On sait, et on le voit même dans le milieu scolaire, dans les collèges, les lycées, la pression du groupe. La pression d'un groupe, ça peut être un truc énorme sur les épaules quand on est jeune, mais même moins jeune, on le voit en entreprise aussi. Et le film, il parle de ça. Il parle de à quel point on peut être influencé, on peut être influençable, et aujourd'hui on est dans ce monde des influenceurs. Donc on voulait poser cette question. Et fatalement, l'odeur qui me revient, c'est l'odeur de cette salle de spectacle, avec la scène, les projos qui chauffent fort et qui rendent un peu fou au bout d'un moment, quoi.
Jean-Baptiste Delafont, en tant que scénariste, vous êtes allé un peu sur le tournage aussi. Est-ce qu'il y a un accessoire qui vous a marqué sur ce plateau?
Le bain de glace magnifique dans lequel le coach ressource et renaît à différents moments du film.
Alors, j'aimerais rebondir là-dessus, justement, puisque Pierre, vous nous avez parlé des séances de muscu que vous avez faites, mais vous avez aussi fait des séances de bain de glace, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça,
pour
vous mettre dans le... Et vous y êtes aussi dans le film, c'est des vrais... C'est un vrai bain de glace que vous prenez
dans
ou
le
pas
film,
pour
dans,
les scènes
dans un souci de survie de l'acteur principal, on ne pouvait pas me mettre dans des vrais bains de glace à chaque scène. Mmh. Il y a des moments où c'est des vrais bains de glace et je me suis entraîné à ça. J'aimais bien la rigueur que ça installait, le côté un peu aussi auto-flagellation de se mettre dans un bain de glace. Il y a quelque chose de presque punitif à des moments où c'est intéressant pour la symbolique du film, on va dire. Et c'était un des outils... dans la morning routine de notre coach Matt, ouais.
Est-ce que vous avez pris le pli? Vous vous en prenez?
Ouais, j'en fais.
Non,
coup,
c'est
j'en...
vrai.
Ouais, du coup j'en ai un chez moi et j'en fais. Donc c'est pour vous dire, coach Matt est resté un petit peu avec moi. Ce rôle va peut-être me hanter très longtemps, mais je pense à lui quasi tous les jours quand je fais ses bains de glace le matin. Ouais.
Vous faites ça tous les? Non, c'est vrai.
Ouais, c'est
tous
vrai,
les
matins. Je vous mens pas.
Incroyable.
Ouais.
Ah oui, ça a vraiment
détendu. En extérieur.
En extérieur, en plus. Donc en hiver, c'est très dur.
Ah waouh. Vous l'avez fait pendant les séquences neige?
J'étais pas là pendant les séquences neige. J'étais pas chez moi. Mais sinon, je pense que je l'aurais fait parce qu'il y a un plaisir à se faire un peu de mal, hein, bien sûr. Il y a un plaisir à se forcer à faire quelque chose. Et alors, je crois que neuroscientifiquement, je rentre vraiment dans le rôle là. Vous voyez bien que c'est vraiment pas un rôle. Il s'est prouvé que se forcer justement et dès le matin à forcer son cerveau à se mettre dans la difficulté, à se mettre dans quelque chose de pénible pendant quelques minutes, on a des récompenses très fortes justement plus tard et ça crée plus de résilience à long terme.
D'accord. Voilà. Et physiquement aussi, j'imagine.
Et physiquement aussi, ouais. Je vous cache pas que moi, je déteste le froid, je déteste tester les douches froides. Et maintenant, les douches froides me paraissent d'une simplicité enfantine.
Yann Gozlan, le son qui vous a le plus marqué sur ce tournage?
C'est la musique de Sirius, d'Alan Parsons Project. Vraiment qui me rappelait donc, les Chicago Bulls et Michael Jordan. Et puis ce truc tellement électrique que j'adore. Enfin, je pourrais l'écouter en boucle. J'adore tellement cette musique.
Et on l'associe maintenant au film Gourou qui sort en salle la semaine prochaine. Pierre Ninet, avec quoi avez-vous envie que les spectateurs repartent après avoir vu ce film?
Peut-être déjà une notion de différence entre l'admiration, qui est quelque chose, je pense, de constructif et presque de nécessaire pour se construire aussi quand on est enfant, ado. Moi, j'ai admiré des artistes, des philosophes, des poètes, et voilà. Et je pense que c'est même pour nous donner parfois un sens moral, un sens de la justice, un sens des valeurs, c'est important d'avoir des gens qu'on peut admirer, mais la limite fine qu'il faut distinguer quand même avec l'adulation. Et l'adulation, on peut y perdre son sens critique. Donc peut-être que les gens... se pose la question, effectivement, de à partir de quand on est dans un aveuglement, un dogme, une croyance peut-être non fondée, parce qu'on a envie d'y croire très très fort, et c'est aussi ce dont parle le film.
Merci beaucoup Pierre Ninet, merci d'être venu dans cette émission cinéma, et bravo pour cette performance 2 ans après celle du Comte de Monte Cristo. Bravo Yann Gozlan pour ce nouveau film culte, Gourou, c'est mercredi prochain au cinéma avec Marion Barbeau, Anthony Bajon, Christophe Montenez, Léonie Simaga et Pierre Ninet qui étaient avec nous aujourd'hui dans cette tourne. Merci Jean-Baptiste Delafont de nous avoir parlé de votre métier de scénariste pour le cinéma. Juste pour dire que vous allez faire des surprises dans les salles de cinéma, Pierre Ninet, pour la sortie du film. Vous allez être présent, n'est-ce pas ?
Le mercredi de la sortie du film le premier week-end, on sera dans plein de cinémas un peu partout en France. On vous dit pas trop où, mais si vous êtes dans les salles, vous aurez peut-être la chance de tomber sur l'équipe du film et il y aura des surprises.
Et n'importe où en France, donc on ne sait pas. Ouais, c'est comme le Kinder Surprise.
Exactement.
Merci d'avoir été avec nous sur votre radio ici. Merci.